Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante étude concernant l'importance de la prière. L'importance de la prière. Nous arrivons à l'étude numéro 10 et le titre sera La prière, une lutte. Ceci est la suite de l'étude numéro 9. La prière est une lutte. Nous ouvrons notre Bible dans l'Ancien Testament. 1 Roi, chapitre 18, versets 30 à 32, ainsi que les versets 36 à 38, et les versets 42 à 45. Il est dit que Élie a dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Puis Élie répara l'autel de l'Éternel qui était démoli. Il prit aussi 12 pierres, nombre égal à celui des tribus des enfants de Jacob, à qui l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » À l'heure où l'on offre l'oblation, le prophète Élie s'approcha et dit, « Ô Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, donc Jacob est devenu Israël, fais connaître aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses en obéissant à ta sainte parole. Réponds-moi, ô Éternel, réponds-moi et que ce peuple reconnaisse que c'est toi, ô Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu de l'Éternel descendit. Il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres, la poussière, et il absorba l'eau qui remplissait le fossé. Achab remonta pour manger et boire. Mais Élie gravit le sommet du Carmel, et s'inclinant vers la terre, il mit son visage entre ses genoux. Il dit ensuite à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Il monta donc et regarda. Mais il dit, je ne vois rien. Élie lui dit par 7 fois, retourne encore. La 7e fois, le serviteur répondit, je vois venir du côté de la mer un nuage petit comme la paume de la main. Alors Élie reprit, « Va dire à Achab, attelle et descends de peur que la pluie ne t'arrête. » En un instant, il tomba une pluie abondante. Achab monta sur son char et partit pour Jezréel. La main de l'Éternel fut sur Élie. Il se saignit les reins et, devançant Achab, il courut jusqu'à Jezréel. On a dit 1 Roi, chapitre 18, versets 30 à 32, les versets 36 à 38 et les versets 42 à 45. Élie était un homme sujet aux mêmes faiblesses que nous. Il pria, demandant avec insistance qu'il ne plût pas. Et il ne plut pas sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis Élie pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit ses fruits. Jacques, chapitre 5, versets 17 à 18. Et en Éphésiens, chapitre 6, verset 18, il est dit, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Nous avons vu que ce qui est vrai de l'activité de l'ennemi dans le but d'empêcher la prière est aussi vrai en ce qui concerne interrompre la prière. Je ne veux pas dire simplement que lorsque nous prions, nous éprouvons des interruptions, mais il a une manière subtile d'intervenir pour entraver la continuité de la prière. Nous pouvons réussir à avoir nos temps de prière peut-être pendant une semaine, même davantage, surtout lorsque s'introduit une chose qui arrête cette continuité et nous, à ce moment-là, nous allons la perdre. Et nous verrons que pour retrouver cette vie de prière, il nous faudra lutter, oui, lutter, avec beaucoup de difficultés. Pour beaucoup d'entre nous, notre histoire, c'est celle d'une vie de prière spasmodique qui se manifeste par moments, une histoire chargée de la nécessité de lutter sans cesse pour retrouver la base de prière perdue, parce que nous avons des arrêts. Les interruptions viennent de l'ennemi. C'est ça les arrêts. Et c'est là qu'il nous faut veiller. Il nous faut spécialement veiller contre les réactions après un temps de prière intensive. Veiller à ne pas nous relâcher en sentant qu'après un temps très sérieux, nous pouvons prendre des vacances spirituelles. Il y a donc là toujours un grand péril, comme David en a fait l'expérience. En un temps où les rois étaient sortis pour la bataille, il monta sur le toit de sa maison. Et ensuite, ce que l'ennemi n'aura pas réussi à empêcher et ce qu'il ne peut pas interrompre, il cherchera à le détruire. C'est-à-dire, il dirigera son attention ensuite sur notre vie de prière. Pourquoi ? Afin de la détruire. Nous pouvons avoir un temps de prière intense. Nous pouvons avoir une série de moments de prière intense. Et l'ennemi cherchera toujours, s'il ne peut pas attaquer directement notre vie de prière, eh bien il essayera d'attaquer sous un autre angle qui ne semble pas être directement lié à elle, mais par lequel nous serons indirectement paralysés. Notre vie de prière peut être très forte et même bonne et consistante. Alors, quelque chose peut arriver dans un autre département de notre vie, dans une autre relation, de sorte que lorsque nous voulons prier, nous voyons que cette chose a jeté un coup direct sur notre vie de prière et nous sommes donc incapables de prier avant que cette affaire ait été mise en ordre. Il nous faut donc reconnaître dans ce que nous disons que toutes ces choses ne sont que les efforts de l'ennemi et d'un plan fortement organisé, vous pouvez me croire, ou bien pour détruire carrément notre vie de prière, ou bien pour l'entraver. Et nous verrons ainsi que le point central de toute chose, c'est bien entendu notre vie de prière. C'est lorsque nous en arrivons réellement à prier, lorsque nous nous livrons à la prière, que nous découvrirons exactement où nous en sommes en relation avec toute notre vie. Donc l'iniquité que nous gardons dans notre cœur peut n'avoir aucun rapport avec notre vie de prière, mais elle portera indirectement un terrible coup sur elle. Les choses qui peuvent paraître être sans importance vont influer directement sur notre vie de prière. L'ennemi nous entoure toujours de toutes ces choses afin de détruire notre vie de prière. Nous subissons l'influence de tout l'état des choses lorsque nous nous donnons à la prière. Nous pouvons ne pas reconnaître pour l'instant ce que signifie une petite chose, quelle qu'elle soit, telle qu'une communion interrompue, une relation tendue, une contrariété, une brèche quelque part, et nous pouvons ne pas reconnaître exactement ce que cela signifie avant de nous donner à une forte vie de prière, et nous verrons que cette chose a donc frappé à la vie même de la prière, et nous ne la retrouvons pas, cette chose est là, et nous sommes retenus ici, et nous découvrirons alors qu'il s'est exercé une action subtile à la circonférence de notre vie qui nous frappe carrément au cœur même. L'ennemi cherche donc à la détruire, pour ainsi dire, à jeter des obstacles qui la rendent impossible, des choses de l'extérieur. Je pense que nous pouvons tous suivre ces pensées et l'expérience les prouve. Voyez-vous, nous en arrivons maintenant à élargir un peu ce conflit spirituel. Les passages que nous avons indiqués nous présentent une position très vaste. Dans le chapitre des Rois, le récit de la bataille d'Élie sur le Carmel est sans aucun doute une illustration de la vérité du Nouveau Testament, spécialement de celle de Éphésiens chapitre 6. Ces deux choses sont donc unies comme le symbole de la vérité, la partie et la contrepartie. Donc, ce qui leur est commun aux deux, c'est que la sphère du conflit se trouve dans les lieux célestes, carrément dans les lieux célestes. Et ce que l'apôtre Jacques nous dit dirige en quelque sorte toute cette question aux cieux. Les cieux sont ouverts et fermés, et le gouvernement des cieux, l'autorité des cieux, les cieux sont l'objet principal qui est en vue ici. Et ce conflit est donc lié aux cieux et aux lieux célestes. Nous avons donc à combattre dans les régions célestes, selon Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et d'une manière très réelle, le conflit d'Élie était un conflit dans les cieux où étaient engagées des forces célestes. Cela, je pense, est très clair. Ce conflit spirituel particulier dans lequel vous et moi nous nous trouvons lorsque nous entrons dans le dessein entier de Dieu et le témoignage de Christ et dans son issue suprême, relié au gouvernement des cieux. Qui est-ce qui gouvernera dans les cieux? Qui? Il y a les dominations, il y a les puissances, il y a les princes de ce monde de ténèbres et les armées des esprits mauvais dans les régions célestes qui ont pris la place du gouvernement, les princes de ce monde. Ils sont donc dans une place usurpée. Ce n'est pas la pensée éternelle de Dieu et ce n'est pas non plus la volonté de Dieu. Christ est la tête et son Église et ses membres sont appelés dans l'intention de Dieu à gouverner dans les cieux. Il faut donc savoir ce que sont les cieux dans cette question-là. Sont-ils destinés à être sataniques ou doivent-ils être l'expression de la souveraineté absolue du Seigneur Jésus dans et par l'Église qui est son corps? Ce sont donc les lieux célestes qui sont engagés, les réalités dominatrices, et c'est donc là que se situe notre conflit. C'est là la sphère de cette guerre et notre vie de prière est donc liée à tout cela. Elle n'est pas simplement liée aux incidents de notre vie ici-bas sur la terre. Oh, voyez-vous, si les enfants de Dieu pouvaient reconnaître l'immensité de cette vocation, si souvent la généralité de nos prières reste dans le domaine des choses simplement triviales et nous employons beaucoup de temps à parler au Seigneur des petites choses de notre vie ordinaire qui tandis qu'elles peuvent être importantes, pour nous en tout cas, et ont de la valeur pour une vie terrestre, elles ne touchent pas aux choses suprêmes du dessein de Dieu. Il y a donc une telle différence entre prier pour les choses d'ici-bas et prier contre les forces immenses de l'univers pour la victoire des choses célestes. Les enfants de Dieu ont donc besoin de s'élever dans la prière afin que les pensées puissantes, célestes, éternelles et universelles soit ému, soit touché et accompli. Il faut donc que nous entrions dans notre place céleste en ce qui concerne la prière, afin que les questions réellement spirituelles qui sont à la base des autres soient touchées carrément. Et très souvent, le Seigneur ne permet pas que nos prières soient efficaces dans les simples détails terrestres de notre vie, tout simplement parce qu'il désire que nous voyions que derrière tout cela, il y a des questions qui ont beaucoup plus d'importance. Nous prions donc pour qu'une chose arrive, qu'un changement ait lieu, qu'un événement se précise, mais rien n'arrive. Le Seigneur cherche, après que nous nous sommes donnés aussi pleinement que possible, il cherche à nous montrer qu'il y a une clé spirituelle à cette situation-là. Et il ne peut pas nous accorder la chose terrestre parce que cela ne contribuerait pas à l'accroissement spirituel de notre intelligence et de notre compréhension, de notre connaissance, de notre valeur, ce ne serait que donner des choses parce que nous les demandons. Il cherche à nous instruire, il cherche à nous enseigner, de sorte que nous entrions en possession de situations spirituelles. Oui, ce sont les lieux célestes qui sont absolument la sphère de tout ce conflit. Chers amis, quelle est la raison du conflit? Pourquoi se livre-t-il? dans ces deux passages, ceux de 1 Rois chapitre 18 et de Éphésiens chapitre 6, nous voyons, d'après le contexte, que la raison du conflit est l'Église. L'objet immédiat qui est en vue, c'est l'Église. Dans 1 Rois chapitre 18, c'est naturellement le peuple de Dieu et le résultat de la prière d'Élie a été que le cœur des hommes puisse revenir à Dieu. C'est donc le peuple de Dieu qui est en vue. La prière d'Élie, elle est pour ce peuple. Il fait approcher tout le peuple et il l'engage dans cette question, l'associe à sa prière. Et tout cela parce que c'est une question pour tout le peuple. Dans Éphésiens, nous savons ce qui est en vue dans toute la lettre. C'est l'Église qui est son corps. Et c'est elle qui est la raison du conflit. Donc, une bataille se livre dans les cieux, dans les lieux célestes, en relation avec l'Église qui est le corps de Christ. Il faut donc dire deux choses à ce sujet. L'une, c'est que ce conflit n'est pas simplement une question personnelle, mais c'est une question collective, corporative. Ce conflit concerne le corps de Christ tout entier, et le conflit de chaque individu est un conflit qui est lié à tout le corps, il est lié à tout le reste des saints, et cette relation spirituelle signifie que si l'un des membres est dans la défaite, eh bien le corps tout entier en souffrira spirituellement. Ça, c'est des choses qui sont importantes de comprendre. Le corps peut ne pas en connaître la raison, il peut n'être pas conscient de sa souffrance particulière, mais elle est enregistrée dans la tête et dans la conscience de la tête, et ce sera donc une perte pour tout le corps, alors même qu'un seul de ses membres est tombé dans une défaite. Le conflit est donc un conflit lié à tout le corps de Christ. Et l'ennemi cherche donc à isoler les membres individuels du corps et à exercer sur eux une telle pression afin de les abattre, afin de les abattre, parce que quoi ? Parce qu'il connaît, non pas simplement la valeur d'un membre isolé, mais il connaît la relation de chaque membre. Et c'est là la raison pour laquelle le Saint-Esprit, dans son intelligence, insiste de manière spirituelle sur la nécessité de prier pour tous les saints, sur la communion entre la prière de tout le peuple de Dieu. C'est une perte pour Christ si cette prière pour tous les saints n'existe pas. Donc l'autre chose qu'il faut dire à ce sujet, c'est que l'objet suprême du conflit n'est pas seulement l'Église qui est le corps, bien qu'elle en soit l'occasion immédiate. Nous ne devons pas mettre l'Église, le corps de Christ, à la place proéminente. Elle est l'occasion du conflit, mais elle n'en est pas l'objet final. Donc l'Église, le corps de Christ, est son instrument. être humain, c'est son vase pour son témoignage. Et son témoignage est déposé dans le corps. Il en fut ainsi dans sa résurrection, puis à la Pentecôte, qui fut son témoignage, le témoignage de son exaltation, le témoignage de sa gloire, le témoignage de son autorité universelle dans les cieux et sur la terre. Il déposa donc ce témoignage dans l'Église à la Pentecôte. Ce que le temple avait été dans l'Ancien Testament, comme le sanctuaire de la gloire de Dieu, le corps de Christ est, dans le Nouveau Testament, le sanctuaire de sa gloire, de son témoignage, de son saint nom, et c'est avant tout pour toucher à cette gloire, à ce saint nom, à sa gloire, que l'ennemi dirige son attention sur l'instrument élu, qui est l'Église et le corps de Christ. C'est donc ainsi que l'Église devient l'occasion du conflit, bien qu'elle ne soit pas l'objet du conflit, mais l'ennemi, il veut atteindre Christ, il veut atteindre le Saint-Nom, la gloire, par le corps, j'ai dit le corps de Christ. Et nous savons que cela était vrai dans l'Ancien Testament. Lorsque le peuple d'Israël, lorsque le peuple d'Israël était dans un état de déclin spirituel, eh bien la gloire et l'honneur du Seigneur, son Saint-Nom, sa majesté, étaient voilés, cachés, même perdus de vue. Et lorsque la vie spirituelle du peuple d'Israël était dans l'ascendance, alors le témoignage de Yahvé l'Éternel était maintenu en pleine force. Donc, dans le Nouveau Testament et en notre propre temps, de cet âge du Nouveau Testament où nous sommes, l'ennemi cherche à déshonorer l'Éternel en détruisant la vie spirituelle du peuple de Dieu ou en rompant la communion des saints. Et c'est ainsi que l'Église, le corps de Christ, devient l'occasion du conflit à cause de sa vocation, à cause de son dessein, de son objet, dans l'intention de Dieu. La haine amère et l'opposition violente de l'ennemi sont donc dirigées contre la vie corporative, j'ai bien dit corporative, du peuple de Dieu. Il cherchera donc par tous les moyens à la détruire, à briser la communion des saints, à opposer même les enfants de Dieu l'un à l'autre, à introduire toutes sortes de choses pour la détruire. Et combien subtils, on peut bien dire, sont ces moyens à cet égard-là. Sachez donc que veiller a une valeur stratégique. Je dis bien, veiller a donc une valeur stratégique. Nous sentons ici, mes bien-aimés, que nous devrons, vous et moi, faire ce que a fait Néhémie et ce que l'apôtre nous exhorte à faire, c'est-à-dire établir une garde, selon Néhémie chapitre 4, verset 9, et veiller à cela avec une entière persévérance, selon Éphésiens chapitre 6, verset 8. Car nous le remarquons dans ces deux passages. Ce sont bel et bien les ruses de l'ennemi qui sont en vue, et établir une garde contre les ruses de l'ennemi en pratique, signifiera donc, dans une direction du moins, être tout à fait sûr que les rumeurs que nous entendons, les choses qui nous sont dites, sont absolument vraies et nous devons en être tout à fait sûrs. Ça veut dire éprouver toutes choses, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Nous pouvons donc être séparés simplement par une rumeur. Oh, la rumeur, ça existe. Oh oui, nous pouvons être divisés par un bruit que nous acceptons. Nous pouvons donc être en désaccord ou même désunis par une simple insinuation. En nos jours où l'atmosphère est surchargée de crainte et de méfiance, il nous suffit d'admettre la possibilité que notre frère ou notre sœur ne soit pas sincère pour créer une rupture spirituelle de communion et faire une brèche. Si seulement nous établissons une garde pour être sûr, alors nous verrons que beaucoup de cela n'était pas nécessaire, n'était pas justifié et représentait au fond une réelle perte pour le Seigneur lui-même et son peuple, car lorsque nous vérifions cette situation et que nous la passons au crible, nous voyons que tout cela était vide et inutile. Ou si réellement il s'y trouvait certaines choses très peu claires, elles auront une explication de toute façon, et nous ne pourrons, en toute sincérité de cœur, que reconnaître la situation comme étant juste. Les choses se passent très souvent ainsi. Mais oh, oui, veillons à établir une garde contre ces ruses de l'ennemi, car il n'est pas en notre pouvoir d'énumérer les méthodes qu'il emploie pour rompre et ruiner la vie corporative du peuple de Dieu. Une sœur chrétienne a dit à une pasteur amie à moi que elle se trouvait presque nue en allant à travers l'église. Or, c'était exagéré tellement terriblement que cela pouvait naturellement procurer quelque chose d'épouvantable et indésirable. Or, ce n'était pas du tout le cas. C'était l'été, faisait très chaud, et évidemment, elle n'avait pas une robe qui touchait jusque par terre. Voyez-vous, on peut exagérer en toute chose, calomnier quelqu'un, même voir le détruire. La prière doit donc nous donner l'intelligence pour comprendre les ruses de l'ennemi, donc veiller pour recevoir la prière, c'est de veiller et prier afin de découvrir dans la prière ce que cherche l'ennemi et la manière dont il agit. Nous ne voudrions pas être obsédés par lui, oh non, avoir toujours nos yeux fixés sur lui, mais nous devons reconnaître quand même les faits tels qu'ils sont, et les faits nous montrent que depuis presque, on peut dire, un peu plus de 2000 ans, c'est bien vrai, l'ennemi, de plus en plus, a pour but de détruire la communion des enfants de Dieu. Est-ce vrai? Point d'interrogation. Est-ce là l'histoire? Si cela est vrai, quelle en est la signification? Eh bien, cela signifie que nous ne pouvons jamais arriver à quelque chose qui représente réellement, dans une certaine mesure, ce qui est précieux pour le Seigneur et qui a un caractère spirituel, ce qui représente un élément précieux de son témoignage. Nous ne pouvons jamais arriver à cela sans avoir ou sans voir que le seul objet de la méchanceté et de la ruse de Satan sera de le diviser. Il veut nous diviser, c'est de nous briser, de créer des schismes et des divisions par un moyen ou l'autre, car une soi-disant vérité a été dite ou carrément des mensonges. Et cela nous dit sûrement que toute cette haine prouve qu'une Église en vraie communion, un corps de Christ bien ajusté et uni, qui est ensemble dans la volonté de Dieu, c'est la menace la plus grande pour les principautés et les puissances célestes qui sont dans l'univers. C'est en sachant cela qu'il nous faut donc agir et qu'il nous faut diriger notre attention. Faisons tout pour maintenir une communion spirituelle. Et cela ne signifiera pas se compromettre avec ce qui serait contraire à la sainte parole de Dieu. Non, non, non. Cela ne doit pas signifier redescendre de la position spirituelle à laquelle le Seigneur nous a élevés à un si grand prix. Il nous faut donc être où était Néhémie lorsqu'il a répondu à ceux qui lui disaient « Viens et ayons ensemble une entrevue. » Néhémie répondit « J'exécute un grand travail et je ne puis descendre. » Néhémie chapitre 6, versets 2 et 3. Nous ne devons donc pas descendre pour discuter des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires au point de vue spirituel. Oui, mes bien-aimés, voyez-vous, la position spirituelle à laquelle nous sommes arrivés à un grand prix est par l'œuvre profonde de la croix. Elle doit être gardée uniquement, je dis bien, en relation avec tous les saints. Nous ne devons donc pas la garder sans rester en relation avec les autres, avec les saints, et nous considérer comme étant supérieurs, voire même séparés des autres. Non, non, non. Quelle que puisse être la différence de position spirituelle, il y en aura toujours. Quel qu'en soit le degré, la communion avec tous les saints doit être gardée et elle doit être maintenue autant que possible et elle doit être recherchée. J'aimerais même insister sur cela de plus en plus, comme je le fais pour mon propre cœur auprès de chacun d'entre nous, car lorsque le Seigneur nous donne sa lumière et sa vérité, le but qu'il désire atteindre peut être entravé si le fait que nous l'avons reçu et suivi, si ce fait nous sépare des autres saints. L'essentiel, c'est que nous nous appuyons sur les saintes écritures telles que le salut, qui est la principale, on peut dire la chose la plus importante. Et le Seigneur a donné tout pour le corps de Christ. Si tout cela est gardé en dehors des autres, eh bien le but pour lequel il l'a donné sera manqué. Voyez-vous? Prenons donc cela très définitivement à cœur. Nous voyons ainsi que la cause du conflit, c'est bel et bien l'Église, en raison de son céleste appel et de sa vocation céleste. Il y a des dénominations évangéliques qui pensent que le baptême par immersion, c'est le plus important. Et ça ne veut pas dire que parce qu'une autre dénomination évangélique pense que c'est pas le plus important, mais plutôt le salut, et que nous ne devons pas essayer de nous entendre. D'autres pensent que si je ne parle pas en langue, je suis peut-être ou je fais peut-être partie de la troisième catégorie. Mais nous ne devons pas penser ainsi. Nous devons essayer de nous aimer les uns les autres, car tous nous formons un corps. Les uns ont reçu ceci, les autres cela, mais il n'y a personne entre nous qui, ou que nous ayons le droit de représenter ou de penser que c'est simplement quelqu'un de rien, que cette personne... C'est tout juste que, si elle peut être acceptée parmi nous. Non, nous n'avons pas le droit de penser ainsi. Chers amis, je voudrais vous demander quelle est la base, maintenant, de la victoire. Arrêtons-nous simplement quelques instants sur la base de la victoire dans ce conflit. La base de la victoire que nous avons dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, c'est certainement l'autel. Dans Éphésiens, c'est exactement la même base. Et avant d'arriver à notre position dans les lieux célestes, pour entrer dans le conflit et le triomphe céleste, il faut que nous passions par les premiers chapitres des Éphésiens et que nous reconnaissions qu'une mort a eu lieu. Un autel était donc là, et après notre mort à nous-mêmes, nous avons été vivifiés et ressuscités ensemble, vous et moi. Tous les traits de la croix, de l'autel, sont donc impliqués au début de la lettre aux Éphésiens. Ainsi, la base de la victoire est présentée. Et ce qu'elle représente, c'est la croix, c'est l'autel. Élie avait pris 12 pierres, et le fait que l'autel a été constitué de 12 pierres, mais immédiatement en vue, en relation avec l'autel, le trait administratif, 12, c'est le nombre de l'administration. L'autel composé de 12 pierres devient entre les mains de Dieu l'instrument administratif, le principe du gouvernement. Le gouvernement est dans la croix et s'exerce par la croix, car c'est par sa croix qu'il a triomphé Jésus. C'est sur sa croix qu'il a dépouillé les principautés et les puissances et les a exposées ouvertement. En lisant ces passages de 1 Roi chapitre 18, avons-nous été frappés par ces termes « nombre égal à celui des tribus des enfants de Jacob, à qui l'Éternel avait dit « Israël sera ton nom » » Verset 31. Que signifie cela ? Oui, Israël est un prince avec Dieu. Les fils d'un prince avec Dieu sont représentés par l'autel, c'est-à-dire par la croix. Et cela nous parle symboliquement de la base sur laquelle nous entrons en notre prince, dans notre position gouvernementale, en Christ, le prince avec Dieu. Christ est le prince avec Dieu. Il est plus grand qu'Israël. il est le prince avec Dieu. Nous sommes donc fils en lui et participants de sa qualité de prince. Cette position nous amène à la place de l'autorité gouvernementale en Christ dans les lieux célestes. Mais tout est lié à l'autel, tout est lié à la croix. La croix est donc la base de la victoire. Et cela est encore prouvé, non seulement par le témoignage des cieux, la sainte parole de Dieu, mais par le témoignage de l'enfer même. Malgré lui, Satan est un témoin involontaire. Je me demande parfois s'il en est inconscient à la vérité de ce chemin, car il est parfaitement clair qu'il haïssait la croix. Il a essayé en premier lieu d'empêcher carrément le Seigneur d'y monter. Bien sûr, on peut mal comprendre ce que je vais vous dire, mais par l'Esprit Saint, nous pouvons le comprendre. L'apôtre Pierre a dit, cela ne t'arrivera point, jamais. Mais Jésus s'est tourné vers lui et lui a dit, il a dit à l'apôtre Pierre, arrière de moi Satan. C'est pas l'apôtre Pierre qui était Satan. Ce qui a fait dire la chose venait de Satan. Quand il a dit, mais jamais, cela ne t'arrivera point. Jamais je me permettrai une chose pareille. C'est donc, j'ai oublié de dire que c'est Matthieu chapitre 16, versets 22 et 23. C'est Satan qui tente de empêcher Jésus de monter à la croix. Et cela par tous les moyens, même s'il doit utiliser la bouche d'un apôtre, d'un disciple. Satan n'ayant pas réussi à l'en préserver, tente donc de le faire descendre maintenant de la croix. Pourquoi pas ? En lui disant, si tu es le Fils de Dieu, eh bien, descend de la croix. D'abord, il veut tout faire pour qu'il n'y monte pas. Maintenant qu'il n'a pas réussi, il va essayer de lui dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors descend de la croix. Saint Matthieu 27, verset 40. C'est subtil, cette suggestion-là. Qu'il descende maintenant de la croix, ça c'est, nous pouvons dire, seulement s'il est, par exemple, s'il était descendu de la croix, eh bien tous disaient, là, nous croirons vraiment en toi, en Christ, en Jésus. Saint Matthieu, chapitre 27, verset 42. C'était pour cela qu'il était venu, Jésus, pour que le monde puisse croire en lui. Mais non, la seconde méthode de l'ennemi ne réussit donc pas. Puisqu'il n'a pas réussi dans cette ligne, et que la croix a été accomplie malgré lui, eh bien il cherchera maintenant à changer, à altérer la prédication de la croix et à en enlever tout le but. Il poussera même les hommes à la prêcher, pourquoi pas, et à la présenter vaine dans leur prédication même. C'est extraordinairement subtil. Il est bon de reconnaître jusqu'où peut aller l'ennemi. Il inspirera la prédication de la croix, et la croix étant prêchée sur son instigation, sous son influence, sera rendue non efficace. On dira l'amour, c'est le plus important, l'amour entre nous, l'amour de Dieu. Mais on ne parlera surtout pas de ce qui est dit, par exemple, si le monde fait du mal, et le mal, qu'il y aura des conséquences, qu'il y aura peut-être des surprises, un prix à payer. Ça, on ne dit pas. On dit que l'amour balaye tout. L'amour permet même à des gens comme Hitler et d'autres criminels épouvantables de pouvoir être pardonnés. C'est ce que nous dit l'apôtre dans sa première lettre aux Corinthiens. Il dit que la croix, prêchée dans la sagesse de l'homme uniquement, elle sera sans effet. Elle est rendue ainsi vaine. Les hommes qui prêchent la croix selon leur propre sagesse enlèvent de la croix sa véritable signification et sa puissance. Oui, il nous est parlé beaucoup du chemin de la croix, mais ce n'est plus le chemin du Seigneur et ce n'est plus son chemin. La puissance même de la croix est dans sa victoire sur l'ennemi et toutes ses œuvres et sur le péché en principe et bien entendu sur tout ce qui est mal, qui est un état, une nature. Et la puissance de la croix lui est enlevée lorsque l'on parle des héros de la croix et que l'on montre le chemin de la croix comme, oui, comme si tout homme qui donne par exemple sa vie pour son pays était dans la même catégorie que Jésus-Christ qui, après tout, n'a fait que donner sa vie comme le fait tout soldat. Cela, c'est la croix dans le modernisme. Donc l'ennemi cherche à faire une autre chose en relation avec la croix, et c'est de garder les chrétiens dans l'ignorance de sa pleine signification, de sa véritable signification. C'est un grand jour pour notre Seigneur et un jour terrible pour l'ennemi lorsque un chrétien entre dans la révélation de la pleine signification du calvaire. Ce jour manquera une nouvelle histoire dans le domaine du conflit. Nous pouvons rencontrer une certaine opposition sur la base de l'œuvre substitutionnaire du Seigneur Jésus, mais croyez-moi, elle sera 10 fois plus forte lorsque nous arriverons sur la base de l'œuvre représentative du Seigneur Jésus et lorsque nous prendrons notre place dans notre identification avec Christ dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection, et cela d'une manière spirituelle. Alors commencera une nouvelle histoire de conflit, de lutte et d'antagonisme de la part de Satan. Mais nous serons entrés dans un nouveau royaume, une place nouvelle, avec de nouvelles puissances à notre disposition. L'ennemi aura perdu sa base. Des multitudes croient à l'œuvre substitutionnaire et ils sont heureux, mais elles marchent encore dans l'énergie de l'homme naturel. Même en tant que chrétien, elles ne représentent donc pas une menace absolu pour l'ennemi dans le domaine plus élevé du conflit. Mais, lorsque la croix a été acceptée et plantée dans notre vie, de sorte que la vie naturelle est mise de côté, en disant « j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Galates chapitre 2, verset 20. Nous sommes alors dans un nouveau domaine avec une nouvelle signification pour le Seigneur comme pour l'ennemi. Et par conséquent, nous sommes dans un nouveau royaume de conflit. L'ennemi fait donc tous ses efforts, bien entendu, pour voiler ce côté de la croix aux chrétiens. Et comme nous l'avons déjà dit, il est vrai que nous rencontrons très souvent plus d'opposition sur cette ligne de la part des chrétiens que sur ceux du dehors. C'est étrange, dès que nous voulons suivre vraiment de tout cœur, âme, cœur et avec tout notre être, le Seigneur dans la pleine signification du calvaire, eh bien nous rencontrons nos plus grandes difficultés, pas tellement parmi ceux qui sont du monde, mais, croyez-le ou pas, parmi les chrétiens officiels, entre guillemets, et en particulier ceux qui se disent chrétiens sans en être vraiment. Les chefs ne veulent pas l'accepter et nous voyons notre chemin devenir infiniment plus difficile. Et il est vrai que l'ennemi hait la plénitude de la croix et il cherchera absolument par tous les moyens à en détruire la valeur pour les croyants, à leur en voiler en quelque sorte la signification, s'il est possible, et de les amener à en abandonner la position et en redescendre ou à les persuader de ne surtout pas l'accepter. Oui, c'est le témoignage qu'il rend à sa valeur, certainement, et il en a compris, bien entendu, la signification. La croix est donc absolument la base de la victoire. Et l'ennemi le sait très très bien. Pour aujourd'hui, je pense que nous nous arrêterons ici, maintenant. Et il nous faut donc penser à tout cela calmement, y réfléchir, l'appliquer. Mais rappelons-nous ce fait évident et concluant. Satan, c'est un ennemi défait pour tous ceux qui sont réellement un avec la croix du Seigneur Jésus, parce que le calvaire représente sa défaite. Et lorsque nous sommes plantés dans la mort de Christ, avec lui, nous sommes dans cette défaite de l'ennemi, dans cette victoire du Seigneur Jésus maintenant. Et pour nous, alors même qu'il assaille, qu'il nous accuse, qu'il lutte, qu'il nous afflige, qu'il nous oppresse, et bien même qu'il nous inquiète et nous harasse, le fait demeurera toujours pour ceux qui sont un avec Christ et en sa croix. Satan est un ennemi défait. Oubliez jamais cela. Chers amis, je voudrais maintenant que nous puissions prier ensemble, mais je voudrais vous dire un psaume, c'est le psaume 62, un psaume merveilleux. Ensuite, les paroles d'un ancien cantique, et nous prierons ensemble. Il est dit dans le psaume 62, « Mon âme se repose en Dieu seul, ma délivrance vient de lui. Lui seul est mon rocher, ma délivrance, ma haute retraite, je ne serai pas beaucoup ébranlé. Mon âme repose-toi sur Dieu seul, car mon attente est en lui. Lui seul est mon rocher et ma délivrance, il est ma haute retraite, et je ne serai point ébranlé. En Dieu est mon salut et ma gloire, mon fort rocher, mon refuge est en Dieu. Peuple, confiez-vous en lui de tout temps. Répandez votre cœur devant lui. Dieu est notre retraite. Dieu a parlé une fois et je l'ai entendu deux fois. C'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la miséricorde, car tu rendras à chacun selon son œuvre. Et ce ancien cantique dit ceci, « Brillante étoile du matin, accorde-nous un jour serein, un jour de paix, de grâce, comme une aurore dans nos cœurs. Répands tes divines splendeurs et ta douce efficace, agneau flambeau de ma vie. Je te prie, viens et éclaire tous mes pas de ta lumière. » Prions. Ô Dieu, notre Père, apprends-nous à répandre nos cœurs devant toi, à t'offrir sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent ton saint nom, à t'apporter chaque jour nos difficultés, nos faiblesses, et à chercher auprès de toi seul le secours et la force. Préserve-nous, Seigneur, de nous confier en nous-mêmes ou de nous appuyer sur le bras de la chair, mais que par une foi vivante, nous nous attachions à toi qui es le rocher de notre cœur et notre partage à toujours. Rends-nous fidèles à chercher le secours toujours présent que tu nous offres, à saisir la main que tu nous tends, afin qu'appuyés sur toi, nous puissions traverser toutes les circonstances de la vie dans la paix et dans la reconnaissance. Tu sais ce qui nous attend pendant cette journée. Nous savons une seule chose, c'est que celui qui a donné son Fils nous donnera aussi toutes choses avec lui. C'est que tu veux notre bien, le bien éternel de nos âmes, et que tu fais concourir toutes choses au bien de tous ceux qui t'aiment. Que dans cette pensée, ô Seigneur, nous nous avancions dans la paix, recevant toutes choses de toi et les rapportant toutes à toi. Reçois donc nos actions de grâce et notre adoration. Sanctifie le culte que nous te rendons et que ta grâce et ta paix demeurent avec nous pour l'amour de notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Et merci, chers amis, de tout l'intérêt que vous portez à ces études. Et je dirais simplement, demain matin, Dieu voulant, pour la suite de notre série. Et rappelez-vous que le Seigneur vous aime. Il vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez penser. Et si certains qui ont écouté depuis quelque temps ces séries, eh bien, si vous avez même des problèmes de santé, approchez-vous du Seigneur avec confiance et dites-lui simplement, « Seigneur, tu sais que je suis ton enfant. Tu sais que mon désir, c'est de te servir parce que je t'aime de tout mon cœur, de mon âme et de mon esprit. » Eh bien, rétablis-moi s'il te plaît, pour que je ne sois pas à charge, ni à ma famille, ni à la collectivité. Tu peux me rétablir. Accorde-moi cette merveilleuse pensée que je peux croire maintenant que tu vas me toucher et pour que je sois rétabli. Je le crois de tout mon cœur. Rétablis-moi maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. À bientôt donc, mes chers amis. À demain matin, Dieu voulant.